À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
De la belle visite à A2, c'est mieux. Aujourd'hui, Marc Fournier. Salut, Marc.
Bonjour, Luc. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben, ça va très bien. En fait, ça fait à peu près 10 minutes qu'on parle ensemble.
Oui,
c'est
un petit
pour
bout
ouvrir, on dit bonjour, comment ça va?
Marc, ton personnage, on va parler de District 31, évidemment. Ton personnage de Yves Jacob qui a pris toute une tournure juste avant les fêtes, ouais. Si je ne me trompe pas. Il arrive, il annonce sa retraite. D'abord, toi, évidemment, c'est la première ligne que tu as lue.
Oui.
Quand tu as reçu le texte, tu as réagi comment? Parce qu'évidemment, c'est pas une finale de balle dans la tête.
Non.
Ou,
Ben, c'est ça. Tu sais, quand on reçoit les textes, souvent, la première chose qu'on fait, on fait un scan des épisodes, puis on essaye de voir si notre personnage est là pour la semaine qui vient. Fait que tout de suite, je trouve, ah, OK, Yves Jacob est là, je commence à lire, puis là, ah, j'annonce ma retraite. Il y a eu comme un petit pincement au cœur, tu sais, parce que je me disais, c'est une façon pas très spectaculaire de quitter l'émission.
Ouais.
Puis, bon, là, j'ai appelé mon agente, j'ai fait, t'as-tu entendu parler que, genre, j'étais viré du show ou de quoi? Non, comment ça? Ben, c'est écrit, je prenais ma retraite, là. Elle dit, ben non, attends, je vais appeler la production. Je dis, non, attends, là, je vais envoyer un petit message à Luc pour savoir. Fait que finalement, j'ai communiqué avec Luc, puis là, il m'a dit, t'as pas lu l'épisode au complet, hein? Je dis, non. Il dit, ben, continue, puis rappelle-moi après. Fait que là, j'ai lu, et là, je me suis rendu compte que c'était tout un frame-up pour m'en aller au SEI. Puis là, j'ai trouvé que c'était vraiment une twist géniale pour le personnage d'Yves Jacob, parce que ça sortait des affaires internes dans lesquelles, bon, il piétinait un peu depuis une couple d'années. Puis ça ouvrait tout un autre style de personnage, parce que là, il jouait sur deux plans différents, puis tout ça, fait que j'étais bien content de cette tournure.
Et là, après ça, c'est un frame-up dans le frame-up, parce qu'on apprend plus tard qu'il est avec Carl Saint-Denis, le personnage d'Hugo Dubé, pour squeezer Louis Bourgoin et Mélissa Corbin, Louis Bourgoin et Stéphane Demers.
Oui.
Je ne volerai pas de punch à ceux qui, si vous ne l'avez pas
si
écouté
hier.
Si vous êtes
en retard un peu.
J'en parlerai pas. Et Mélissa Corbin, qui est jouée par Brigitte Parker.
Oui,
mais,
magnifique Brigitte.
Donc ça aussi, tu l'as appris plus tard, que c'était un frame-up dans le frame-up.
Ben en fait, j'ai quand j'ai parlé à Luc Dionne, un peu suite à tout ça, il m'a expliqué que là, genre, c'était Carl Saint-Denis. Fait que j'avais déjà une petite idée de où ça s'en allait, parce que moi... Une des choses que je voulais savoir, c'est « OK, je fais tout ça, mais pourquoi? » Tu sais, je voulais avoir du jus un peu, savoir quoi jouer. Puis, ben il m'a donné juste assez d'informations pour savoir que je savais pourquoi je m'en allais au SEI puis qu'est-ce qui allait arriver avec ça. Par contre, ça change tout le temps, ça se promène, il y a toujours des surprises. Je savais pas que j'allais... autant m'impliquer au SEI, puis je savais pas non plus que... Parce que c'est un petit peu ambigu. Il reste le fait que je surveille aussi un peu ce que la gang du 31 fait par rapport à l'enquête sur Pascal Lanier puis Louis Bourgoin. Carl Saint-Denis veut pas manquer sa shot avec ça, fait que je suis un petit peu là comme chien de garde aussi au 31. Fait que est-ce que je... Il reste plein d'affaires à découvrir. Je peux même pas être certain encore qui que je surveille le plus, Mélissa ou Daniel, là, tu sais. Fait que ça se joue un petit peu partout.
Et j'ai l'impression que dans les deux cas, autant la gang du SEI que la gang du 31, on aimerait bien laisser l'autre gang se salir les mains puis pas trop être trempé là-dedans.
En effet, oui. Puis c'est ce qui place Yves Jacob dans une position vraiment jouissive à jouer, parce que... Là, de plus en plus, ce que je vois, c'est que je suis vraiment un loup solitaire là-dedans. Là. Tu sais, c'est un cow-boy qui s'en va vers le soleil couchant, puis il sait pas ce qu'il y a au bout de la terre plate, je dirais. Là. Parce que ce qui se trame aussi là-dedans, c'est que le jour où sa couverture est détruite, la gang du SEI va probablement pas être très heureuse de ce que Yves Jacob est en train de faire là, puis de la façon dont il aura placé ce guet-apens-là. Mais je suis pas certain non plus qu'il est en train de se créer des amis au 31 plus avec cette histoire-là non plus. Puis Carl Saint-Denis, on voit qu'il y a des motivations politiques. Si jamais ça vient trop chaud pour lui, je pense qu'il sera pas là pour sauver Yves Jacob. T'sais. Fait qu'il se retrouve vraiment d'une position tout seul dans son coin. Puis ça lui donne une force, une indépendance, mais une vulnérabilité aussi qui change bien gros sa façon de regarder les choses.
C'est arrivé un peu, ben pas par hasard, mais c'est arrivé d'une drôle de façon, ce personnage-là, parce qu'au départ, tu donnais la réplique à Sébastien Delorme pour son audition de Stéphane Pouliot.
Ouais.
Donc, tu auditionnais même pas pour toi,
non,
au départ.
Non, puis je saurais pas te dire si cet événement-là a eu vraiment une incidence sur le fait qu'on m'offre Yves Jacob, mais ça a été le premier contact que j'ai eu avec les textes de District 31. Je savais que la série se préparait. J'avais vraiment le goût de jouer dans une série de Luc Dionne, parce qu'on en a déjà parlé. J'avais trippé sur Omerta, sur Bunker, le cirque, qui étaient aussi des séries écrites par Luc Dionne. Fait que j'avais parlé à mon agente, tu sais, j'aimerais ça jouer ce show-là. Puis là, finalement, ben, un moment donné, pour l'audition de Sébastien Delorme, il avait besoin de quelqu'un pour lui donner la réplique. Fait que j'ai fait le personnage de Patrick Bissonnette pour faire auditionner Sébastien. Quelques semaines plus tard, Lucie Robitaille a appelé à mon agence pour offrir le personnage d'Yves Jacob, qui était là pour juste deux épisodes. On en a déjà parlé aussi. Fait que j'étais pas sûr. J'étais comme « Ah, c'est un peu mince! » Puis... Mais finalement, à lire la description du personnage puis à me laisser fider par Lucie, j'ai vu que c'était une bonne chance à prendre.
Marc, tu l'as dit, c'était deux épisodes au départ. Est-ce que ça te faisait un pincement de savoir que ça allait être deux épisodes puis ça allait être tout toi qui étais un fan de Luc Dionne?
Ouais. Oui et non. C'est-à-dire que juste d'aller faire les scènes qui étaient écrites pour ce personnage-là, pour ces deux épisodes-là, je trouvais ça déjà super intéressant à jouer. Puis, je veux dire, c'était aussi à une époque où j'avais pas nécessairement de lead en vue non plus. Là. Donc, qu'on me donne deux épisodes dans une série qui allait rejoindre autant de monde, je pouvais pas snobber ça, c'est certain. Mais... on en parlait un petit peu tantôt. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est préparer un personnage. Tu sais, c'est une des parties du travail où tu as le plus de contrôle puis où tu peux prendre le plus de temps à t'impliquer, à creuser, à aller comprendre la psychologie du personnage, trouver son physique, tout ça. Donc, d'avoir fait tout ce travail-là juste pour deux épisodes, c'est certain qu'il y avait comme un petit pincement au cœur. Mais le cadeau, ça a été que je revienne pour un autre épisode, puis que je revienne pour un autre épisode, puis une autre saison, puis une autre saison, puis que je revienne de saison en saison. Fait que ce travail-là, il a continué à se forger. J'ai continué à travailler sur le personnage d'Yves Jacob, puis j'en parlais dernièrement, d'accepter aussi que Marc Fournier, il a changé énormément pendant ces cinq années-là, tu sais, donc ça se reflète un peu sur le personnage en même temps. Ce qu'on vit maintenant dans la pandémie et tout ça, ça a aussi une influence sur Marc, donc sur le personnage. Fait que c'est en constante évolution, puis j'aime bien ça, continuer à le travailler puis à le faire vivre.
Ça faisait déjà quelques années que tu travaillais dans ce métier-là. On te voyait dans des rôles à la télé, mais évidemment, celui-là, c'est le rôle qui t'a fait connaître du grand public. Comment t'as vécu avec ça quand le regard des gens autour de toi, quand tu te promènes, quand tu vas faire des courses, a changé? Comment t'as réagi?
Écoute, c'est certain que ça change plein de choses, mais je te dirais que justement, faut le remettre en perspective. Tu sais, j'ai joué de la musique pendant longtemps aussi, avant de devenir comédien, pendant 6 ans. Donc, j'ai eu une espèce de vie publique aussi en musique, où là, c'est complètement différent, parce que c'est vraiment Marc Fournier, en tant que musicien, qui est en avant. C'était un autre rapport au public. J'étais plus jeune, un peu plus fou. C'était plus Musique Plus que CJSO qui nous recevait puis tout ça. Donc, j'avais déjà une expérience là-dedans. Puis par la suite, ma carrière s'est construite tranquillement. Tu sais, je veux dire, ça a commencé par une pub, par faire manger du spaghetti dans Virginie en arrière en silence. Là, mes parents étaient contents, ma famille, hey, on t'a vu à la TV. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai quand même vécu des choses qui m'ont amené à toucher, on pourrait dire, au succès d'une certaine façon. Fait que j'étais préparé. Je te dirais que j'ai été capable d'aborder ça de façon zen parce que je savais que Marc Fournier existait avant d'exister dans l'œil du public. Puis ça, je trouve que c'est super important. Puis ce qui doit être dur à dealer avec quand un succès spontané. J'en vis pas en tout ça, admettons, qu'il se retrouve à Star Academy ou des affaires de même.
Que ça explose d'un coup.
Tu as 22 ans, tu sais, je veux dire, ça doit être super dur à gérer. Je les envie parce qu'il y en a des excellents là-dedans. Là. C'est pas le show que je juge pas en tout. Mais donc, moi, je te dirais que ma vie au jour le jour n'a pas changé. Garde, j'arrive de la ferme de mon beau-père là, à l'instant où je viens de nettoyer un poulailler. Tu sais, je veux dire, j'ai encore les deux pieds ben ancrés dans terre. Puis mon beau-père, il est bien content que je joue dans le District 31, là, mais... Il s'en fout là, que je vienne faire une entrevue à la radio. Là. Il y avait des choses à faire, on les fait puis on travaille. T'sais. Fait que j'ai ce double rapport-là à la vie qui fait que j'ai une famille solide, j'ai des enfants à m'occuper, j'ai une femme que j'aime, puis tout ça. Pis, donc, ça, c'est ma base. Le reste, que les gens s'intéressent à mon travail, c'est magnifique. Je veux dire, tu as reçu une nomination, félicitations
merci.
Dernièrement, mais ça ne change pas qui que tu es à la maison. Ça fait juste faire comme « Ah, mon travail est le fun à faire, les gens sont contents de ce que je leur donne, puis c'est aussi pour ça qu'on fait ça, ce métier-là, quand on fait des arts ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'on veut donner au monde, donc tant mieux s'ils le reçoivent bien, mais c'est pas ma motivation première. »
Hier, dans le district, est arrivé un événement dont on parlera pas pour les gens qui l'ont pas écouté, mais est-ce qu'on va sentir des conséquences sur ton personnage dans les prochains épisodes?
Cet événement-là va avoir des conséquences sur tout le monde, évidemment. C'est certain que, on l'a vu, mon boss, mon vrai boss, Carl Saint-Denis, il y avait un plan pour Louis Bourgoin, mais je pense pas que c'était ça qu'il pensait comme finalité, tu sais. En tout cas, ça serait plate que c'est ça qui voulait qu'il arrive. mais c'est certain que là, ça va brouiller les cartes complètement pour Yves, pour ce qu'il est en train de faire. Je pense, tu sais, j'ai toujours vu Yves comme quelqu'un droit quand même, d'honnête. Puis je pense que s'il y avait un travail à faire pour Louis Bourgoin, Pascal Lanier puis tout ça, c'était de mettre ça au grand jour pour que le zigonnage politique en dessous sort de la police, mais pas qu'il arrive des événements qu'on nommera pas. Là, donc, je pense, oui, ça va encore changer ce que Yves fait.
C'était comment revenir au 31 en COVID-19? Parce qu'évidemment, tout a changé.
Ouais.
Vous pratiquez les scènes avec des masques.
Ouais.
Donc, jusqu'à temps que ça tourne, vous voyez pas le visage.
Non.
De vos collègues. Il y a des nouveaux qui se greffent tout le temps, 1731.
Oui.
Mm-hmm. L'équipe technique est masquée, il y a des plexis, il y a de tout. Comment tu as vécu ça quand tu es arrivé là?
Bien, moi, quand je suis arrivé, ça faisait déjà quelques semaines qu'il avait repris pour terminer la saison dans laquelle j'avais pas d'épisode. Fait qu'il y avait déjà un air d'aller. Je te dirais que ça se passe plutôt bien, pour vrai. Le gros défi... Ça a probablement été de mettre tout ça en place pour le retour, tu sais, au niveau de la production, au niveau de la technique, de réinventer ta façon de tourner parce que là, tes comédiens sont loin un de l'autre, comédiens, comédiennes. Donc, faut que tu essayes d'utiliser la technologie pour pas qu'on voit. Mais l'équipe technique sur District est tellement... C'est des magiciens, tu sais, je veux dire, premièrement, ils sont habitués de travailler vite dans des conditions... Qui contrôlent pas tout le temps. Donc, ils sont capables de se revirer sur une scène. Puis ça, ben, ils l'ont fait de façon vraiment magnifique. Moi, en tant que comédien, pour vrai, là, à part l'équipement de protection personnelle, puis la conscience qu'il faut que je garde mon 2 mètres avec les autres, puis que je respecte ça durant le tournage, malgré des moments spontanés de jeu qui pourraient arriver, faut que tu gardes cette petite voix-là en arrière de toi. Mais sinon, je veux dire, tout est mis en place pour que nous, on ait juste à jouer. Puis ça, ben j'en remercie bien gros l'équipe, toute l'équipe en arrière de la caméra, parce que ça se passe relativement bien. On en avait parlé à un moment donné. Une des choses que j'ai trouvé drôle, c'est à ma première journée de tournage, j'avais une scène à faire avec, je pense que c'était avec Patrick Bissonnette. Puis là, je me rendais compte que je projetais ma voix comme si on est... Mais comme là, tu sais, on est loin un de l'autre, mais je te parle dans le micro, on pourrait se parler comme ça, puis on s'entendrait. Ouais, ouais. Mais là, avec la distance, on s'entendait pas vraiment parler. Fait que je lisais ses lèvres, puis j'étais porté à projeter. Puis là, une manière, ça a fait comme... Non, non, là, t'es pas à 2 mètres. En réalité, lui, t'es collé. Fait qu'il a fallu que je réajuste, admettons, le volume de ma voix pour que ça soit crédible qu'on était en train de se parler un à côté de l'autre. Mais à part de ça, ça va bien. Ce qui manque peut-être un peu, c'est les moments où on était tous ensemble, admettons, l'heure du lunch ou des choses comme ça, là, le monde s'en va un peu plus dans leur loge, chacun de leur bar, il y a moins de discussions de table quand on a des temps libres. Mais sinon, l'ambiance est là puis ça va bien.
Mais on me dit cette semaine que les pauses collations sont devenues de vraies pauses collations parce qu'avant... manger vite en travaillant, mais là, on ne peut plus pour les mesures sanitaires.
Ouais.
Donc, on a prolongé la journée un peu, mais ces moments d'arrêt-là deviennent des vrais moments d'arrêt, ce qui fait du bien, en quelque part.
Ben, ce qui fait du bien, oui, c'est certain qu'admettons, surtout pour l'équipe technique, là, parce qu'en tant que comédien, il y a toujours une scène dans laquelle t'es pas, là, puis tout ça. Mais pour eux, oui, c'était des journées, ils commençaient puis ils arrêtaient à la fin. Là, fait que j'ai l'impression qu'il y a des affaires qui vont vouloir être gardées, même si la pandémie se résorbe. C'est sûr que ça fait du bien de prendre un moment puis de se resetter, comme on dit.
Marc, à 30 ans, tu as décidé que tu y allais dans ce métier-là. Tu avais toujours surfé, tu nous parlais de la musique. Je sais qu'avant ça, il y avait le lip-sync qui t'avait habité dans ta jeunesse.
Ouais.
Il y a toujours eu cette passion-là pour le métier des arts.
Ouais.
Mais tu y étais jamais allé vraiment complètement.
Non. Ben,
qu'est-ce que ça a déclenché, la trentaine, pour que tu dises à ta blonde que tu voulais essayer maintenant, là, que c'était la dernière chance?
En fait, le premier événement déclencheur, je dirais, c'est en 2000, alors j'avais 27. Un ami de Trois-Rivières, Marc-André Dard, montait une pièce de théâtre au Théâtre des gens de la place, qui est une troupe de théâtre magnifique avec laquelle j'ai collaboré beaucoup quand j'habitais Trois-Rivières. Puis là, ben, j'étais à Montréal, un peu sur la bombe, puis tout ça. Puis il me dit, je monte une pièce de théâtre, Suburbia, j'ai besoin de bombes, j'ai besoin de gars qui peuvent jouer ces personnages-là. Ça te tente-tu de faire la pièce de théâtre avec moi? Là? Ouais, OK, c'est de la logistique, j'habite Montréal, la pièce est à Trois-Rivières. Il dit, on va faire les répétitions la fin de semaine, puis fait qu'on fait le samedi-dimanche de répétition, fait que j'ai fait « OK, j'embarque ». Fait que là, j'ai passé l'été à monter cette pièce-là. On l'a présentée, j'avais le rôle principal dans la pièce, puis ça a été ça vraiment qui m'a frappé, je dirais, là, qui m'a donné le coup de batte dans face. Ça a fait comme... Peu importe ce que t'as fait auparavant, c'était... On dirait que c'était ça ton X, c'était ça que tu voulais faire. Mais là, OK, de où je... T'sais, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Là? J'ai fait une pièce à Trois-Rivières, là, mais de là à transférer ça en métier, c'est une autre affaire. Fait que pendant 3 ans, j'ai jonglé avec ça. J'ai pris des ateliers, j'ai essayé de renouer avec le milieu, puis tout ça. Puis un moment donné, je travaillais dans un restaurant, puis je commençais à avoir des auditions. Fait que là, je demandais des congés pour aller à mes auditions, pour aller à mes tournages. Puis là, un moment donné, il y a un de mes boss qui s'est un peu tanné, puis qui m'a dit, « Bon, ben Marc, là... Il y a une place pour devenir maître d'hôtel qui se libère. Fait que j'aurais envie que ce soit toi, mais il faut que tu fasses un choix.
Si t'embarques pour vrai.
Là, c'est à Noël, c'est à Saint-Valentin, à fête des mères, à fête des pères, t'es là tout le temps. T'sais. Fait que c'est là qu'à 30 ans, j'ai été voir ma blonde puis j'ai fait comme, écoute, maître d'hôtel, là, ça me tente pas de faire ça toute ma vie. Grand respect pour ce job-là, j'ai adoré ça puis tout ça, mais... Ça me tente pas de faire ça toute ma vie. Je veux être comédien. Je veux mettre l'accent là-dessus. Fait que là, tu me donnes-tu une couple d'années pour m'essayer, voir si je peux ramener de l'argent à la maison avec ça. Puis là, il y a eu la naissance de ma fille aussi. Puis tout ça ont été des événements qui ont fait que je voulais essayer de devenir ce que j'ai toujours rêvé d'être, t'sais, plutôt que d'être juste quelqu'un qui va de chèque de paye en chèque de paye puis tout ça. Fait que je m'étais dit, il n'y a pas grand-chose dans la vie que tu as fait de façon olympique, c'est-à-dire de dédier ta vie à ça. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire avec le métier de comédien. Puis on se retrouve ben, une vingtaine d'années plus tard. Puis j'ai pas eu encore de médaille d'or, mais au moins je me retrouve sur le podium de temps en temps. Puis je suis bien content de où ça m'a mené.
Es-tu fier d'avoir fait ce gamble-là?
Vraiment.
Parce que c'est pas simple. Il y a eu des années difficiles, assurément.
Oui, tout à fait. Je suis... Oui, il y a de la fierté, mais je veux dire, c'est... tout ne dépend pas de toi, évidemment. Là,
non, non.
Il y a des opportunités qui se sont présentées. Il y a du monde qui ont cru en moi. Il y a une famille qui m'a supporté. Mais oui, tu sais, des fois, il faut se donner la tape.
Mais si tu travailles pas bien, aussi, tout ça,
si
ça arrive vite.
Si tu travailles pas bien, le monde, tu sais, tu te fais pas rappeler. Fait que oui, tu sais, je suis capable de prendre une partie de ce mérite-là. Mais je suis surtout content de ma persévérance. Tu sais, je suis surtout content de continuer à y croire, d'être capable d'accepter que, tu sais, bon, le jeu, c'est une chose... Ramener un salaire à la maison, ça se fait de 10 000 façons, tu sais, je veux dire, j'arrêterai jamais de travailler, puis je m'assoirai jamais sur mes fesses parce que, bon, j'attends le grand rôle ou whatever, tu sais, fait, je subviens aux besoins, mais je continue à investir là-dedans, puis il y a des grands rôles, il y a des moins grands rôles, mais j'essaie. Puis,
c'est des rôles au bout.
J'aimerais ça aussi, avec le temps, devenir plus actif au niveau de la création. Tu sais, j'ai des idées que je voudrais développer de séries, d'affaires documentaires, de peut-être de pièces. J'aimerais ça me monter un one-man show aussi, on en parlait comment ça... C'est un grand test de te présenter seul sur scène, tu sais. Ça, c'est une chose que je voudrais faire à un moment donné. Fait qu'il reste plein de projets. On est juste sur une route qui nous amène vers plein de choses. Fait que...
Cette année, au bye-bye, on... tu sais où je m'en vais. On a vu tes enfants.
Ouais.
Dans une pub.
Oui.
C'était le Port du Québec, je pense. Une famille avec Marc Bellin qui fait un génie.
Oui.
Et tes enfants sont découragés du choix de leur père
de
dans la pub.
Côtelettes.
C'était comment pour toi de voir tes enfants ensemble à la télé? Parce que ta fille en avait fait déjà un peu.
Oui.
Mais là, de voir les deux ensemble, ça devait être touchant.
Oui, c'était le fun. Je veux dire, mon gars aussi en avait fait un petit peu... bon, je les ai jamais poussés là-dedans, mais... pour ma fille, elle, il y avait eu des belles choses qui lui sont arrivées quand elle était plus jeune. T'sais, elle a eu un rôle dans Unité 9, elle a fait plein de belles choses. Puis c'était son choix à elle. Une moment donné, au début de l'adolescence, elle a laissé tomber. Puis là, elle y revient. Il y a quelque chose aussi, tu sais, c'est intéressant pour un enfant, c'est les revenus qui viennent de ça, les mettre de côté pour ses études.
Oui.
On a vu Xavier Dolan, ce que ça lui a permis de faire. Fait que, puis mon garçon, lui, c'est un comique. On l'appelle l'humoriste dans la famille. Là. Il aime ça faire des jokes tout le temps. Fait que c'était le fun de les voir pouvoir explorer ça ensemble parce qu'à la maison, ils sont pas souvent...
C'est des ados en même temps.
C'est des ados. Mais oui, j'étais content pour eux. Surtout que la pub a eu un bel impact, puis mon gars, il arrête pas de m'écœurer avec ça. Tu sais, il dit « Oh, ça fait 20 ans que tu fais ça, toi. T'as-tu déjà eu une pub au bye-bye? » Non, papa, il a jamais été au bye-bye. Fait que, garçon, il m'a surpassé là-dessus. Fait que lui, il peut faire check là-dessus. Papa, il a pas encore été au bye-bye. Qui sait?
Mais bon. Est-ce que ça leur a donné le goût de faire ça? Parce que ta fille, surtout, est à l'âge où elle commence à penser carrière, j'imagine?
Oui, je pense pas. Écoute, ma fille, ce qui l'intéresse vraiment le plus, c'est les langues, l'écriture, la lecture beaucoup aussi. Elle se dirige plus. Écoute, ça peut l'amener
ça peut
n'importe
changer,
où,
ouais.
Là, mais elle se dirige plus en art et littérature pour le cégep. Mais elle a définitivement une fibre artistique. Mon garçon, écoute, je ne sais pas, il y a 12 ans, il est... Je bénis le ciel, il est bon à l'école, en maths, en sciences, tout ça.
Il y a une possibilité de choix.
Je pense pas qu'il ait encore mis le doigt sur ce qu'il aimerait faire. C'est un peu le problème quand t'es bon dans plusieurs choses aussi. Là, mais c'est un sportif, il aimerait ça jouer pour la Ligue nationale, mais tout ça. En tout cas, on verra bien. Je les appuie, anyway, dans tout ce qu'ils expérimentent, parce que... Peu importe dans quel domaine, c'est des expériences de vie qui les font grandir. S'il n'est jamais comédien, il aura appris ce que c'est d'une une journée de comédien, que tu es 12, 13 heures à répéter la même affaire puis à faire confiance au monde, à l'équipe autour de toi. Fait que c'est des belles expériences de vie de toute façon.
Marc, je veux te parler de l'implication sociale parce que tu t'impliques beaucoup auprès de certaines causes, dont la sclérose en plaques, qui est une cause très près de toi parce qu'il y en a dans ta famille.
Mm-hmm. Ben, implication, je ne sais pas, Encore là, je pourrais remonter à loin, là, mais quand j'étais au secondaire, j'ai fait partie d'un voyage humanitaire en Haïti. J'ai été travailler pendant 3 semaines là-bas à rebâtir des écoles, plein d'affaires. Puis ça a vraiment planté une graine en moi de, tu sais, d'une espèce de conscience qu'il y a d'autres choses que ce que tu vis dans ta cour aussi. Mais bon, oui, cette association-là est arrivée dernièrement. Ma belle-sœur a la sclérose en plaques, puis bon, c'est une maladie où il y a des moments beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc, je suis conscient des défis que ça peut amener. Surtout, curieusement, surtout pour les gens qui accompagnent ces gens-là dans leur vie, dans leur quotidien, où tu vois quelqu'un que t'aimes passer de durs moments. Puis, à un moment donné, c'est par le magasin Sport Opus à Longueuil. Le propriétaire m'approche puis il dit « Oh, mon frère fait un événement pour lever des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Est-ce que ça te tenterait que je te mette en contact? » Fait que j'ai dit « Ben, crime, au moins si cette affaire-là de que le monde me voit à TV, puis tout ça peut chose, aider à ça. » Avec, parce qu'on s'en fait offrir souvent, mais là, il y avait comme quelque chose qui m'avait touché dans cette offre-là, étant donné que ça me touche vraiment personnellement. Ben, pas vraiment personnellement, mais par la bande. Là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un événement. Le premier événement que j'étais supposé parrainer était supposé être au printemps passé. La pandémie est venue, la COVID est venue mettre la hache là-dedans. Mais là, on remet les choses en place pour essayer de le faire. Ce serait le 19 juin. C'est le défi vélo de montagne Sutton qui aurait lieu le 19 juin. Donc, c'est un parcours de vélo de montagne pour les initiés, là, je dirais quand même.
OK, il faut être limite un peu bon.
Oui, okay. Ben, écoute, c'est parce que c'est un événement sportif. C'est comme un Ironman, peux bien décider d'y aller puis faire le demi, mais si t'es pas en forme, c'est un peu dur. Puis le vélo de montagne, c'est plus juste un vélo avec des chocs en avant à cette heure-là. Il y a des freins spéciaux, des changements de vitesse. Fait que oui, c'est un vélo pour initiés, sauf qu'il y a quand même un parcours débutant. Okay. Donc, si tu en as déjà fait, mais que tu n'es pas un pro, tu peux participer à l'événement. Puis là, on est en train de voir si on pourrait pas faire un événement, un genre de spectacle ou quelque chose après dans le stationnement avec distanciation sociale et tout ça. Fait que c'est,
évidemment, avec les mesures qu'on verra rendu là.
Et si ça n'a pas lieu en juin, mais que c'est possible au mois d'août, il y aurait peut-être possibilité de se réassocier pour le faire au mois d'août, ou en tout cas, ou peut-être une façon de le faire virtuelle, mais... On aimerait bien ça que ça ait lieu le 19 juin comme tel. Donc, tu formes une équipe, tu peux aller sur la page de la sclérose en plaques, défi vélo de montagne, puis donner des sous à une équipe que tu veux parrainer, des choses comme ça. Fait que c'est comme ça que la levée de fonds se ferait.
Vas-tu le faire, toi? Es-tu un initié du vélo de montagne?
J'étais supposé m'initier au printemps passé. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Je serais supposé faire le petit parcours. Okay. Fait que là, on est en train de voir. J'aimerais ça m'entraîner au printemps un peu, faire une coupe de descente avec Pierre. Ouais, puis voir pour en faire. Là. Sinon, je vais cheerer là, ceux qui vont le faire. Mais je fais du sport, tu sais. Peut-être que je vais y aller bien doucement, mais j'aimerais ça au moins être sur le parcours avec ceux qui le font.
Et t'as des collègues du 31 qui sont bons en vélo. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui seraient tentés d'y aller? As-tu jasé avec certains?
Non, pas pour ça. Ben, il y a un autre événement, par exemple, avec Fred Cloutier qui fait Jérôme dans le district 31 qu'on a fait. En fait,
le délégué syndical des policiers.
Oui, c'est ça. Lui, il fait un 250 km avec son père à chaque année pour lever des fonds pour la sclérose en plaques aussi. Puis l'année passée, il finissait son trajet à Trois-Rivières. Fait que j'avais été à Trois-Rivières. Puis on avait fait des boucles de 30 km toute la journée ensemble. Puis je sais qu'avec Sébastien Delorme, ils ont fait un Ironman ou en tout cas des choses comme ça. Là. Le vélo de montagne, je ne sais pas, je pourrais en parler à Sébastien, là, mais on va voir, ça va être quoi les possibilités là-dessus.
Est-ce que c'est touchant, ça, de savoir qu'avec ce métier-là, on peut aider, quelque part, juste par notre présence, juste parce que le fait d'être là, ça, il y a des médias qui s'intéressent à tout ça, on parle de la cause, après ça, il y a du public qui vient parce qu'on est là aussi.
C'est toujours quelque chose que j'essaie de faire avec parcimonie, je dirais. J'essaie de pas mélanger mon rôle d'interprète non plus avec, me prononcer sur plein de sujets politiques. Mon rôle dans la société, c'est de faire réfléchir par mon art. Et non pas de faire la morale aux autres. Je veux pas être le genre d'artiste qui est de toutes les causes puis qui a une opinion sur tout. Mais oui, en même temps, je trouve que les arts, c'est un moteur de changement social, c'est un moteur de réflexion. Je pense qu'il faut pas évacuer ça de l'entertainment. Je pense que c'est important que les arts soient là pour nous mettre nos travers d'en face, qui nous amènent à être des êtres humains meilleurs, puis nous faire réfléchir sur notre condition, sur les grandes questions. Fait que je trouve que c'est important de combiner ça aussi avec l'humilité que tu es quand même juste un interprète. Puis fait que oui, de pouvoir combiner ces deux choses-là. Si le fait de mettre Marc Fournier peut amener à impliquer plus de monde, à amener plus de sous pour la recherche, à aider plus de gens qui sont pris avec ce problème-là, ben tant mieux, d'une certaine façon.
Et nous, t'es devenu un chouchou du cabaret des stars. Oh! T'es venu à plusieurs reprises. Les gens sont contents de te revoir.
J'ai ma carte chouchou.
À chaque fois, t'as une carte chouchou. Avec Dominique Cotson, il faut former un duo de côte d'habits maintenant.
Ben oui.
D'ailleurs, ça t'a permis de rencontrer des gens du milieu artistique que tu aurais à peu près pas côtoyé,
la musique, et sportif, plus aussi et sportif, public, tout ça. Ouais, c'est un super de bel événement. Ça, c'est une autre affaire. C'est toi qui m'as tiré là-dedans, mais j'ai tellement de plaisir à y retourner. Je trouve que la formule du cabaret des stars, les barrières tombent. Je veux dire, on commence à manger. Y a-tu un moment plus intime dans ta vie que quand t'es en train... Ben, il y en a peut-être d'autres, là, mais je veux dire, c'est un des moments intimes.
Mais serait mal vu faire des événements bénéfices de même, par exemple.
Tout le monde aux toilettes ou je sais pas quoi. Mais non, mais c'est quand même un moment intime, se nourrir. De partager ça avec des gens. Je veux dire, les barrières tombent en deux secondes. On se met à parler. Moi, je pose plus de questions que j'en reçois bien souvent parce que je m'intéresse au monde qui font partie du service puis tout ça, fait que c'est un super de bel événement. Puis encore là, tu vois, il y a ce plaisir-là, mais au bout de la ligne, c'est pour une bonne cause aussi, tu sais, fait que c'est le fun quand ces deux choses-là se joignent ensemble puis qu'on peut aider des gens.
Et toute la veillée, les gens viennent m'avoir en me disant « Il est fin, ce gars-là! » Il n'est pas comme Yves Jacob.
C'est un gros exercice de relations publiques, en fait. Je veux comme juste montrer que je suis capable de sourire dans la vie. Non, mais oui, ben c'est ça. C'est sûr que Yves Jacob, c'est un personnage. Il y a des parties d'Yves qui me ressemblent, mais sont modulées pour faire le personnage.
Mais est-ce que les gens l'aiment, Yves Jacob? Parce que là, on ne le sait plus, là, mais... Écoute, quand on a su que tu étais avec Carl Saint-Denis, hein, toi, tu es présent sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens t'ont dit « Ah là, on l'aime, il y a du bon bord. »
Là, ça disait souvent hey, « Lui, je l'haïssais, mais là, il y a du bon bord. »
On le sait pas.
On le sait pas. Mais c'est juste, ça me fascine à quel point, tu sais, je veux dire, un moment donné, Luc a juste à écrire une réplique de, mettons, de Bruno qui dit « Ah, pas encore lui. » Puis là, ben tout le monde est là « Pas encore lui, tu sais, je veux dire, pendant une semaine, Jacob, c'est une vipère, tu sais. Puis là, ben, là, un peu plus tard, t'as Daniel qui dit, hey, Jacob, c'est un bon enquêteur, nanana. Puis là, hey, là, on a besoin de Jacob, c'est le messie quasiment. Fait que c'est drôle comment Luc arrive à jouer avec ça, puis implanter. Il avait déjà dit dans une entrevue, j'ai beau faire les choses les plus abjectes à mes personnages principaux, tu sais, Patrick, Daniel, tout ça, c'est que le public va quand même détester ceux qui viennent pointer les erreurs de mes personnages principaux. Puis lui, ça le fascinait comment le monde pouvait être en Moses contre Mélissa Corbeil, alors que, en quelque part, elle a raison, tu sais. Fait que c'était un peu la même chose pour Yves, tu sais. J'arrivais puis je disais, hey, t'as pas le droit de faire ça, mais c'est moi qu'on détestait parce que je leur disais.
Et à quel point les gens étaient tristes quand Faneuf est parti, oui, alors que c'était le bandit.
C'est le bandit. Mais vois-tu, il y a quelque chose de le fun, parce que ça veut dire que l'auteur, le personnage, toute l'équipe a réussi à montrer l'humain malgré les... Tu sais, puis Luc ça s'amuse beaucoup à faire ça, à mettre des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Tu sais, il y a... C'est pas tous des méchants, ceux qui non. se retrouvent à la table d'interrogation.
On a d'ailleurs un exemple cette
là,
semaine avec la famille.
Tellement. Fait que je trouve, tu sais, ça a beau être une quotidienne, ça a beau être un téléroman, c'est fou à quel point il fait réfléchir le monde sur des enjeux assez importants.
Marc, j'ai vu une entrevue de toi, tu parlais d'une scène avec Gildor Roy.
Ouais.
J'aimerais ça que tu racontes ça, je trouve ça beau comme anecdote.
Ouais, ben c'est drôle parce que Gildor m'en a parlé suite à la parution de l'article, mais ça a été... C'est ma première journée de tournage sur District, en fait. Puis, bon, ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas eu de rôle consistant. Là. Ça faisait comme un... J'ai eu comme des super belles années, là, 2010, 2011, 2012, 2013, c'était un peu plate, en tout cas. Puis là, ben là, on arrive à cette journée de tournage-là, fait que je me sens un peu rouillé, tu sais. Là, je suis un peu nerveux, Gildor Roy, ouais, je veux dire, j'ai sa photo sur mon téléphone, je trippe sur ce que ce gars-là a fait. Autant, admettons, je pense à Requiem pour un beau sans-cœur avec le film de Robert Morin ou une petite Fred Denis, là, tu sais, je veux dire, de les deux spectres. J'ai toujours bien aimé ce comédien-là. Fait que j'ai une scène à faire avec lui, puis je suis supposé, tu sais, comme il dit, hey, « Daniel, fais pas ci, fais pas ça », puis le barouetter un petit peu. Puis là, on arrive pour répéter la scène.
Et puis, rends-toi.
Gildor fait 6 et 2, 6 et 3. Je pense, moi, je fais 5 et 8. Là,
et avec il est massif.
Puis il est massif. Puis, je veux dire, il y a une autorité naturelle. C'est... Fait que là, j'étais comme, hey, Gildor, je suis désolé, là, mais j'ai l'air d'un nain de jardin à côté de toi. J'ai aucune autorité sur toi. Je pourrais pas te... Puis là, il avait fait comme, non, Marc, tu sais, avec tout son côté. Non, Marc, ton autorité, tu vas l'avoir par le cœur que tu vas y mettre. Puis moi, tu vas voir, je vais te laisser toute la place. Je vais me faire tout petit, puis tu vas avoir le dessus sous moi. Puis j'avais fait comme, my God, OK, tu sais, c'est un ballet, tu sais, je veux dire, dans le sens que si moi, je suis là, je dansais le rock'n'roll, puis lui danse une valse, ça marche pas, tu sais. Fait il y a comme eu de quoi d'apaisant là-dedans, de savoir qu'on choisissait la même musique pour danser, puis qu'on savait c'était quoi le show qu'on avait à faire, puis qu'il allait pas se braquer, puis dire non, le jeune, t'auras pas ton moment à toi, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça tellement généreux, puis je veux dire, j'avais vécu des choses similaires auparavant, mais ça l'a encore une fois montré que dans la générosité, tout le monde est magnifié, tu sais, d'une certaine façon. Puis ça m'a donné des ailes, ça m'a donné confiance en moi, puis ça m'a aidé à poursuivre par après.
Marc, merci.
Ah, tabarnouche, hein? Je passerai encore une autre heure avec toi. Mais c'est tellement un plaisir. Merci bien gros, Luc. C'est une belle émission. Puis c'est vrai qu'à deux, c'est mieux.
Oui.
Puis ben, ça sera toujours plaisir de venir reparler au monde de Sorel, Tracy puis de la région.
Évidemment, tu es dans District 31. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi?
Écoute, c'est tout en train de se décider pour le printemps. Là, on reçoit les demandes.
Il y a les projets qui repartent.
Oui, c'est ça. Il y avait une émission à laquelle j'étais... une série à laquelle j'étais supposé participer, là, Patrick Sénécal présente, que je sais qu'ils ont réussi à faire
une
5
saison,
épisodes.
Ouais.
Moi, j'étais dans un autre batch. Je sais pas quand est-ce que ça va... Comment ça va avoir lieu, puis si je vais être encore là, puis tout ça, ça va dépendre de plein de choses. Mais bien ouvert à toutes les propositions, je dirais, intéressantes. Puis la pandémie m'a donné le goût de travailler aussi dans la création. Fait que
ouais, une série documentaire?
Oui, il y a de quoi que je suis en train de réfléchir, là. Mais je peux pas trop en parler de ça encore.
Mais que tu réaliserais aussi?
En fait, que je suis en train de concevoir, puis probablement, j'aimerais somner les entrevues. Ah non, ça, je peux pas en parler tout de suite. J'ai trop... Faut que ça soit plus structuré avant d'en parler. Mais j'aime rencontrer des gens. J'aime connaître leur vécu, leur passé. Puis il y a des gens à qui j'aimerais parler avant qu'ils partent. Fait que voilà.
Bien, merci encore une fois, Marc. Et j'invite les gens à te suivre, évidemment, dans District 31. Et à te suivre sur le web.
Ouais,
t'as une page officielle sur Facebook.
Oui, puis Instagram, puis tout ça. Je poste pas tous les jours, nécessairement, là, mais je réponds au monde, en tout cas.
Et en espérant qu'on te reverra au Cabaret des Stars.
Je l'espère
éventuellement.
Oui, définitivement.